8h34, monsieur le commissaire est de retour après son escapade.
Mon escapade?
Oui.
Ma présence en Islande,
à un prestigieux festival du film français à Reykjavik.
Prestigieux, hein?
Prestigieux, ouais, okay. Modestement prestigieux.
D'ailleurs, Stool FM t'a localisé sur place et j'en ai été informé très tôt ce matin.
Oui.
C'est incroyable. Incroyable.
Parlons de Gérald Botts, le principal secrétaire de M. Trudeau, qui a annoncé hier sa démission.
Ben là, c'est ça, on avait une discussion préalable avant que, qui était assez intéressante, parce qu'il y a à la fois la déclaration de M. Joyeux. Dans le fond, là, pourquoi, puis Bernard posait bien le principe, pourquoi s'en va-t-il, tu le posais aussi, si en disant « je ne suis coupable de rien », apparemment, il y a une contradiction. Mais c'est sûr qu'en dans le démissionnant, ça veut dire qu'à la fois, il s'éloigne de Justin Trudeau, mais en même temps, il regagne complètement sa liberté de parole, parce que lui n'est pas assujetti à un accord de confidentialité avec le premier ministre ou avec le cabinet. Donc, il devient un citoyen libre de s'exprimer et libre de dire « voici ce qui s'est passé, voici comment nous avons agi et quelle est la pression que nous aurions pu ou dû ou pas fait exercer sur la ministre de la Justice. » La ministre, elle, et ça c'est intéressant aussi, elle est prise avec deux serments de confidentialité. L'un à l'égard de sa responsabilité ministérielle, elle doit garder la confidentialité des débats ministériels, et l'autre, en tant que procureur général, elle doit être respecter la confidentialité des rapports qu'elle a avec son client. Or, son client, dans ce cas-ci, c'est le gouvernement. Donc, on voit que l'affaire est plus complexe. Autrement dit, la possibilité qu'elle puisse répondre, par exemple, à des affirmations de Botts serait extrêmement limitée, et c'est la raison pour laquelle elle est allée chercher un juge de la Cour suprême. Donc, on voit que l'affaire se complexifie un peu. Derrière tout ça, mais je veux pas prendre tout le temps, mais on discutait d'un article de Jean-Claude Hébert que je suis pas sûr de tout comprendre, mais en tout cas, ce que je comprends, c'est que cette même ministre de la Justice aurait, à l'encontre d'une politique fédérale claire qui veut être absolument exemplaire. Le fédéral aurait dit sur la planète entière, nous, on est contre les compagnies qui font des affaires comme SNC en a fait en Libye où il y a de l'argent qui est versé. Mais en même temps, le gouvernement, ce même gouvernement-là, a préservé dans des amendements à la loi du code criminel la possibilité que le pouvoir politique puisse intervenir au nom de l'intérêt général dans des cas où il pourrait y avoir un accord de rédemption pour une compagnie fautive. J'espère que c'est clair parce que c'est quand même assez subtil comme question.
Mais en fait, tu vois, tu évoques plein de subtilités, plein de zones d'ombre. Et moi, dans ce dossier-là, c'est pour ça que j'ai des doutes. En fait, je ne suis pas encore certain que ça va vraiment nuire au Parti libéral. C'est compliqué. Il y a quelque chose d'extrême. Tu sais, on est dans le juridique, on est dans le politique, on est dans les subtilités de l'interaction entre le juridique et le politique, dans une zone où c'est une des rares zones où le politique peut avoir un mot à dire sur ce qui se passe dans le judiciaire. Juste cette phrase-là que je viens de prononcer.
Cette phrase-là est incroyable.
Il y a la moitié du monde qui s'est endormi parce que c'est plat. Non, mais c'est vrai. Et tu sais, c'est pas comme une valise d'argent. C'est pas le scandale des commandites. Il n'y a pas quelque chose de clair qu'on peut comprendre juste en une phrase. Peut-être que ça va. Peut-être qu'il y a une bombe qui va sortir et que là, ça va devenir, disons, politiquement mortel de clarté. Pour l'instant, ça ressemble à d'un bord, tu as une ministre qui a démissionné parce qu'elle était fâchée, semble-t-il, qu'on ait voulu lui forcer un peu la main. De l'autre bord, tu as une démission surprise de M. Botts qui est le maître à penser de M. Trudeau. C'est son cardinal Richelieu, c'est son stratège. C'est pas n'importe qui. Il y a bien des gens qui disent que Justin Trudeau ne serait jamais devenu premier ministre du Canada sans Gerald Botts. Et ça, bon, c'est sûr qu'il perd un joueur important. Pourquoi il quitte? On le sait pas. Il y a beaucoup de « on le sait pas » dans ce débat-là. Et à la fin, c'est quand même difficile pour les partis d'opposition de taper là-dessus parce que si tu critiques, comme M. Singh le fait, le chef du NPD, si tu critiques sans nuance la décision de peut-être influer sur les procureurs de la couronne fédéraux, mais ce que tu dis, c'est, ben écoutez, les 3 000 jobs au Québec puis les 9 000 jobs au Canada, tough luck. C'est ce exactement. Que tu dis. Ben, c'est une position rejoins. Politiquement parce que, difficile
c'est là
à
que je te rejoins.
Non, mais il y a quand même des questions qui... Comme tu dis, là, on n'a pas les réponses, mais pourquoi les procureurs ont jugé que c'était la voie des tribunaux pour SNC-Lavalin? Ça, c'est la question de base. Deuxième question, M. Trudeau, c'est clair, veut sauver Lavalin. Je pense que c'est assez évident, là. Veut sauver les emplois, veut sauver la compagnie, veut utiliser l'argumentaire de la réparation pour éviter le départ de SNC-Lavalin parce qu'il n'y a pas d'actionnaire de contrôle chez SNC-Lavalin, puis on peut se faire bouffer.
Oui.
Puis troisièmement, ce qu'on ne dit pas ben souvent, je trouve, c'est qui sont les joueurs qui peuvent bouffer SNC-Lavalin, à qui on va donner la bénédiction dans les circonstances, qui sont souvent des entreprises françaises prises dans des histoires de corruption à leur tour, des entreprises allemandes pognées dans des affaires de corruption. Fait qu'on va permettre à une entreprise corrompue, qui a déjà été corrompue, de racheter peut-être SNC-Lavalin.
Exact.
Faut le faire, là.
C'est dur en diable de condamner un gouvernement qui est en train de nous dire, quelles que soient les réserves qu'on a sur le système économique, tout ça, c'est dur de dire que tu vas condamner un premier ministre puis un gouvernement alors que, visiblement, ils essaient de préserver l'intérêt économique national, des emplois, une entreprise...
Tu veux pas dire donner une free game aux grosseurs, là?
Exactement, parce que on sait très bien que l'accord de réparation... C'est pas un laisser-aller total, là. C'est très clair qu'il y a une grosse amende, bon, puis qu'il faut qu'il y ait un contrôle qui doit être extérieur. On en a déjà parlé de ça. Mm-hmm. Donc, la question, c'est de savoir pourquoi la ministre de la Justice, est-ce qu'elle s'est opposée à cette volonté gouvernementale-là de sauver une partie de l'économie canadienne? Et si elle l'a fait, quels sont ses motifs? Puisqu'on découvre qu'en principe, comme procureur général, si tu dis il n'y aura pas d'accord de... Comment ça s'appelle? Non, d'accord
réparation.
De réparation. Il n'y aura pas d'accord de réparation, mais elle est tenue de dire quels sont les motifs pour lesquels il n'y aura pas d'accord de réparation, puisqu'elle est à l'origine du changement dans le code criminel qui permet l'accord de réparation. Donc, c'est ça la question.
Moi, je vais vous dire, j'ai jamais trouvé que Mme Wilson-Raybould était une bonne ministre de la Justice. Okay? Je pense que c'est parfaitement envisageable de penser qu'elle a été tassée parce qu'elle a, en bon québécois, elle a bousillé certains dossiers. Quand elle est arrivée au pouvoir, quand elle a commencé son mandat, il y avait un projet de loi qui n'attendait que la proclamation royale. C'était sur sur la traite des personnes. On était à l'époque, on sortait là, de ce cycle de nouvelles sur les fugues. Et il y avait un projet de loi à Ottawa et il n'a jamais été entériné, ce projet de loi-là. Ça n'a jamais vraiment été expliqué. On n'a pas su pourquoi. Moi, j'ai trouvé que toute la question de mourir dans la dignité a été, écoute, raté de A à Z d'un point de vue législatif. C'est elle qui pilotait ça. Le POT, sorry, là, mais tout le dossier du POT, je sais que ça dépassait la justice, mais c'est pas pour moi un grand moment législatif au Canada. Et là, tu veux modifier le code criminel, tu veux avoir cet accord de réparation-là, et la façon dont t'écris probablement le règlement, ben ça fait en sorte que SNC, il n'y a pas droit. Moi, j'ai trouvé qu'elle a beaucoup... ça n'a pas été une grande ministre de la Justice. Ceci étant dit, il y a peut-être une leçon politique là-dedans. Malgré ça, quand tu as une ministre majeure et symbolique comme ça, parce que c'est la première femme autochtone qui accédait à un poste de cette importance-là, tu n'as pas besoin de l'humilier d'une part en l'envoyant dans un ministère mineur. Et après ça, comme on a fait au cabinet de Trudeau, ça s'est passé un peu inaperçu, de l'humilier en laissant courir des ragots sur le fait qu'elle n'était pas gérable. Ça aussi, ça peut fâcher quelqu'un.
Chose certaine, ce qui va résulter, c'est que ça va être un débat politique qui, malheureusement, ira pas dans les subtilités, mais risque d'être assez primaire.
Fais la pause. Au retour, on sent déjà l'affrontement entre les docteurs et la ministre de la Santé sur le droit de... En fait, permettre à une infirmière, les super infirmières, de poser un diagnostic. Wow!